France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
La nature coulait sous le béton pour une histoire bien armée. Faut-il dire bétonisation ou bétonnage ? Il en va de nos manières de nous exprimer, comme des couleurs ou des formes de nos vêtements, des coupes de cheveux ou de nos habitudes alimentaires. Elles n'échappent pas au phénomène de mode. Voilà ce que nous pouvons lire sur le site de l'Académie française qui préconise l'usage du mot bétonnage. Parce que bétonisation, ce mot, même s'il est plus long, dit l'Académie française, n'ajoute rien à ce que dit bétonnage. Il est donc préférable de s'en passer. Mais puisque l'Académie elle-même reconnaît que ce sont, comme les manières de nous exprimer les couleurs ou les formes, l'usage qui fait la langue, bétonnage ou bétonisation, une histoire bien armée.
Béton armé, soleil en berne.
À Paris, deux ministres, messieurs Pinault et Claudius Petit, ont inauguré au musée des travaux publics l'exposition du béton armé.
Et c'est affreux, quoi.
Le béton est donc aussi un mélange de mortier et de pierre.
Du ciment à l'horizontale, du ciment à la verticale.
Une pierre artificielle.
C'est le plus ancien mode de construction, le béton.
Le cours de l'histoire.
Le Corbusier avait fait le plan libre et la façade libre, il ne faut pas l'oublier, ça. Et c'est ce qui a fait cette architecture.
Incontournable béton, bien entendu. Léa Hobson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte scénographe. Vous êtes l'autrice de Désarmer le béton, réhabiter la terre. Avec cet ouvrage-là, publié à La Découverte, le réhabiter nous en dit long sur la place qu'occupe le béton aujourd'hui. Je vois que vous êtes maçonne également.
Oui, j'ai fait une formation de maçonnerie du patrimoine pendant un an.
Bon, ça c'est important parce que il va falloir bien savoir ce dont nous parlons. Qu'est-ce que le béton ? Et pour évoquer ce matériau hallucinant et omniprésent, Néo Magalhaes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche au CNRS. Bah justement, qu'est-ce que le béton ? Comment fabrique-t-on ce matériau ? Qu'est-ce qu'on y met déjà ? Alors les ingrédients.
Alors oui, c'est un bon point de départ qui était d'ailleurs le mien. D'ailleurs, pour donner un mot sur la démarche qui irrigue le bouquin et ma thèse.
Accumuler du béton, tracer des routes, une histoire environnementale des grandes infrastructures. C'est publié à La Fabrique.
Voilà. Et donc pour donner un contenu à une pratique de l'histoire environnementale, en effet, on peut partir de la matérialité du monde et donc des ingrédients, en l'occurrence du béton. Ça, c'est un premier pas. Et le deuxième consiste à essayer de trouver les pratiques sociales, les rapports sociaux qui se cachent, qui s'inscrivent dans ces matières. Et donc, en effet, moi, je suis parti des ingrédients du béton, qui sont assez simples à situer et à saisir, du sable, du gravier, du ciment et de l'eau. Et dans le ciment, on a du calcaire, de l'argile, des adjuvants. Et puis, on peut passer au béton armé, dont on parlera plus tard, où là, on a aussi de l'acier. Donc voilà pour tous les ingrédients qu'on trouve dans le béton et le béton armé.
Léa Hobson, ce n'est pas difficile de faire du béton une fois qu'on a les ingrédients. Le ciment, ce n'est pas facile à réaliser, hein, parce que moi, le sable, j'imagine comment on peut en trouver. L'eau, il n'y a pas trop de soucis, mais alors le ciment, c'est difficile.
C'est difficile aujourd'hui parce que c'est des recettes qui sont devenues extrêmement complexes et auxquelles on ajoute des ingrédients. T'as parlé de d'adjuvants et l'eau, mais il y a plein de choses qui sont rajoutées aujourd'hui qui font que c'est devenu. Enfin, c'était déjà nommé l'or gris au 19e siècle et c'est le cas, quoi. C'est encore le cas. Donc voilà, le c'est une recette qui en soi est pas très compliquée. Mais qui est devenu extrêmement complexe et qui est aux mains aujourd'hui de très peu d'industriels, quoi.
Oui, parce que si nous allons dans un magasin, nous achetons le sac de ciment, les différents ingrédients, il nous faut quand même, enfin une pelle déjà, c'est le minimum, pour mélanger tout ça et puis avoir le matériau. Mais pour obtenir ce béton, en réalité, c'est quelque chose qui draine l'ensemble de l'industrie, de l'économie. Il faut des grosses industries derrière. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir l'impact de ce béton. Pas seulement le béton que l'on peut voir, ce que nous évoquions en introduction, hein, le bétonnage ou la bétonisation. Le béton est partout, mais alors j'entends ce 19e siècle. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes là sur une histoire qui a les 200 ans à peu près pour l'histoire du béton ?
Oui, alors pour revenir au béton, d'ailleurs c'est intéressant, le béton c'est le mélange d'un agrégat avec un liant, et le béton de ciment, c'est le liant, c'est un liant hydraulique qui va durcir au contact de l'eau. Donc le ciment est un liant hydraulique. Mais il y a d'autres liants, on peut faire du béton d'argile avec l'argile comme liant, ou du béton bitumineux, et dans ce cas-là, c'est de l'asphalte, et le liant c'est le bitume. Le liant qu'on connaît aujourd'hui remonte en effet à 2 siècles environ, le ciment, c'est-à-dire qu'il va durcir... au contact de l'eau, à l'époque on appelle ça de la chaux hydraulique artificielle, ça remonte environ au début du 19e siècle, il y a énormément d'ingénieurs, de chimistes, et c'est la naissance d'un tout un tas de savoirs dans la résistance des matériaux aussi, qui vont commencer à tester comment produire une pierre artificielle de façon industrielle. Ça c'est le rêve de beaucoup d'ingénieurs qui est au service de l'État et des projets de l'État tout au long du 19e. Donc en effet le ciment naît à cette époque-là, mais c'est comme tout un tas d'autres inventions. Ce qui compte, c'est son usage. Et c'est-à-dire que l'usage au 19e, il reste assez modeste. On l'utilise à peine pour faire de gros blocs, des jetées, des digues, des choses comme ça. Donc des travaux hydrauliques, hein, très souvent, des canaux et des ports. Et l'usage massif du béton va venir avec le béton armé début 20e. Donc là, c'est une histoire qui a un siècle. Le béton armé, c'est une histoire qui a un peu plus d'un siècle. Et à ce moment-là, ça va vraiment concerner le bâtiment. Mais avant le 20e siècle, il n'y a pas du tout de béton dans les bâtiments.
Puis on peut faire le rappel que le béton était déjà utilisé dans l'Antiquité. Il y a un béton antique qui a été oublié, hein, vraiment pendant longtemps, ou en tout cas, si ce n'est oublié, en tout cas, qui n'a pas été utilisé et qui se développe d'une autre manière au 19e siècle. Ce béton de l'Antiquité, c'est le même procédé en fait, hein, c'est de mélanger un liant avec autre chose. C'est pas exactement le même béton qu'aujourd'hui, mais il était drôlement solide, hein.
Ouais, bah il y a le Panthéon de Rome qui est toujours debout et tous les ouvrages qui ont été construits par les Romains qui sont toujours là. Et alors voilà, la différence c'est qu'il y avait pas d'armature d'acier et il y avait en tout cas ce qui a été découvert assez tardivement, mais il y avait de la pouzzolane qui est de la cendre volcanique, de la roche volcanique qui était ajoutée à ces recettes là qui étaient plutôt justement assez simple sur la façon dont elles étaient fabriquées.
Avec toute cette histoire-là, écho à l'Antiquité bien sûr, mais le béton qui nous intéresse, c'est celui qui est mis en place dès le 19e siècle et qui ne cesse de se développer.
À Paris, deux ministres, messieurs Pinault et Claudius Petit, ont inauguré au musée des travaux publics l'exposition du béton armé. C'est à 3 Français, Lambeau et sa barque en fer ciment, Monnier qui prit le premier brevet, repris plus tard industriellement par Henbic, François Coignet à qui l'on doit le premier toit toujours existant à Saint-Denis, que voici 100 ans le monde moderne dut l'invention de ce matériau dont il a fait depuis un si considérable usage. C'est le béton armé qui a permis la construction du pont de Plougastel le plus long d'Europe, dont chaque arche a une portée de 172 mètres. C'est grâce au béton armé que les plus vastes constructions de l'époque ont pu multiplier leur nombre et surtout leur ampleur. Aujourd'hui, le plus grand chantier français, le barrage de Bord, utilisera 660 000 mètres cubes de béton et des milliers de tonnes de fer. Grâce à l'emploi de ce matériau, est né ce style utilitaire dont les entrepôts de Pantin sont l'un des exemples les plus marquants. Ici, tout est lumière et netteté, car les nouvelles méthodes de construction, avec leur voûte d'une portée de 100 mètres, permettent de réaliser dans le même espace le maximum de capacité. Avec le ciment armé, voici 100 ans, 3 Français ont donné une nouvelle architecture au monde.
Et ces 3 Français évoqués dans les actualités françaises en 1949 sont Joseph Lambeau, Joseph Meunier et François Coignet, avec l'idée de mettre du métal à l'intérieur de ce ciment, ils en parlent ainsi, à l'intérieur du béton. Quel avantage ici de mettre du métal ?
Alors la grosse différence en fait, c'est que le béton seul, il résiste en compression. Il est très bon pour résister en compression, mais il ne résiste pas du tout en traction. Donc en fait, on rajoute ce qu'on appelle la résistance en traction, qui vient précisément du métal. Dans la plupart des travaux, des ouvrages en métal de l'époque sont très bons en traction. Et donc ça révolutionne complètement la chose et ça permet évidemment des ouvrages tout autres. Donc ça c'est l'immense différence. Auparavant, le béton sert comme masse, comme dans les fondations, comme bloc et des choses, des usages assez modestes finalement. Et Puis pour dire un mot sur les inventeurs, là, bon, alors il y a une grande histoire des inventeurs. Alors évidemment, c'est pas eux qui font encore une fois les usages. Hein. Sans usage, il ne se passe rien. Et il y en a énormément fin 19e. Il y a des centaines de brevets qui sont déposés, etc., etc. C'est un peu le concours à qui va trouver la meilleure façon d'allier ce métal et le béton. Et on a un autre qui n'a pas été cité, je crois, c'est Enobic, qui est vraiment celui qui a expliqué comment on devait bien accrocher les tiges de métal ensemble dans le béton armé, et dont un des premiers bâtiments à Paris, c'est un rue Danton, vraiment près de à Saint-Michel. Là, on peut le voir encore aujourd'hui, c'est en béton armé.
Voilà, avec ici cette évocation de ces inventeurs, quelques essais à Saint-Denis, on en voit des petites choses comme ça ici et là, et puis l'idée d'élévation, mais des centaines de brevets déposés au cours du 19e siècle, certains ont été mis de côté, et certaines aussi, hein, parce que on peut souligner ça aussi, Léa Hobson, c'est vrai que cette histoire-là est une histoire d'invention, d'architecture et une histoire féminine.
C'est sûr que les femmes, elles ont été complètement effacées pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, déjà, elles n'avaient pas accès aux écoles. Enfin, ça, c'est déjà un premier point. Pour autant, si je parle là, pas forcément des ingénieurs ou des architectes, mais même juste des bâtisseuses, pendant toute la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, en fait, ce sont vraiment les femmes qui ont participé à la reconstruction et puis voilà, à déblayer des villes entières. Donc ça, il y a beaucoup d'archives, notamment en Allemagne. Et ensuite, il y a des femmes architectes et ingénieurs qui ont participé aussi à des inventions. Moi, je pense à une américaine qui s'appelle Anna Kischlein, qui a inventé une brique de terre en K. Donc certes, c'était pas du béton, mais en tout cas, c'est vraiment précurseur du parpaing. Et en plus, c'était une brique qui permettait d'incorporer de l'isolation dedans. Et après, il y a des architectes comme Hélène Gray ou Charlotte Perriand. Enfin, il y a plusieurs noms de femmes. Et quand même, ce qui les relie aussi, c'est que c'était des personnes qui étaient très engagées politiquement et qui ne disent. Enfin, il y avait quelque chose où elles dissociaient pas la question de l'habité de l'architecture. Donc très tôt, il y avait cette dimension vraiment aussi éthique des espaces qui étaient construits et de la matérialité.
Et puis quand on entend que l'origine du parpaing se trouve dans la pensée d'une femme. Je trouve ça passionnant quand on voit le succès du parpaing aujourd'hui dans notre environnement. Il est incontournable lui aussi, ce parpaing. Dans l'histoire que nous évoquons ici, dans l'effet que peut avoir l'utilisation de béton, Nello Magalhães, vous l'avez bien dit, il n'y a pas d'effet majeur dans un premier temps parce que le béton, c'est extrêmement réduit. Donc on va faire des blocs, des fondations, des petites choses comme ça, ou des essais aussi, parce que c'est quelque chose qui marque. On tente quelque chose. À partir de quel moment peut-on commencer à parler de bétonisation ou de bétonnage ?
Bon, alors ça dépend des pays. Pour la France, il y a une grande poussée dans les années 20, fin des années 20, qui dure à peu près 10 ans, puis qui est arrêtée par la guerre, et puis en effet, surtout après 1945. Alors les effets, en fait, ils sont assez simples. Si on reprend les ingrédients, eh bien, qui dit beaucoup de béton dit beaucoup de sable, beaucoup de gravier, beaucoup de ciment et beaucoup de charbon. Donc on peut ensuite les déplier un par un, mais ce qui veut dire dans un premier temps que si pour donner un ordre de grandeur aussi, un mètre cube de béton, ce sont 2 tonnes de sable et de gravier et 350 kilos de ciment. Et donc pour le pour en déplier quelques-uns, on peut déjà commencer par dire que tout ce béton vient en effet de carrières et que donc le bâti, que ce soit des bâtiments ou des grandes infrastructures, se reflète dans le creux des carrières partout. Et ce que j'ai appris assez rapidement, c'est que ce sable et ce gravier est toujours extrait localement. Et donc en fait, on avait en France des dizaines de milliers de carrières. On en a un peu plus de 20 000 après-guerre. On en a encore 12 000 en 1980. Aujourd'hui, on en a encore 4 000. Donc il y a vraiment des carrières un peu partout. Ce dont se vante d'ailleurs le patronat des carrières en disant nous on est local, etc. Ce qui fait aussi d'ailleurs le succès du béton, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des ingrédients assez ordinaires. Et pour le ciment aussi, les ingrédients sont relativement ordinaires, le calcaire et l'argile, on en a à peu près partout en France. Et donc, ce sont, c'est un liant facile à produire. Alors, modulo, évidemment, l'investissement dans le four, parce que c'est là un peu l'énigme. On pourrait dire, bon, ben, pourquoi chacun ne produit pas son ciment? Vous avez posé la question tout à l'heure. Eh bien, parce qu'il faut un four qui est très coûteux. Et ça produit une énorme concentration, le coût, les investissements dans ces fours-là. On appelle ça des monopoles naturels en économie. Et donc, il n'y a que quelques firmes qui sont capables de produire le ciment, parce qu'elles dominent absolument tout le marché. En France, il y en a 4. Dans le monde, il y en a une grande dizaine, mais pas beaucoup. Qui, en fait, contrôle la dureté du monde entier, on va dire. Et donc, on aurait pu croire... D'ailleurs, il y a eu un peu cet effet au 19e, énormément de chauffourniers qui vont commencer à faire de la chaux hydraulique... chacun de leur côté, parce qu'il suffit de bien mélanger le calcaire et l'argile pour avoir ce type de ciment. Donc la chaux hydraulique, c'est un genre de ciment. Et donc on a d'abord une diffusion et énormément de chauffourniers qui chacun partout en France produisent un genre de ciment. Et puis on a une énorme concentration de la production de ciment au XXe siècle. Aujourd'hui, encore une fois, il y a que 3 ou 4 entreprises qui produisent la totalité du ciment. Donc voilà pour... Et alors évidemment, quand on va parler de ciment, on pourra parler ensuite de CO2, etc. Mais pour le premier aspect, c'est celui-là très matériel, c'est-à-dire des carrières. Il faut énormément de carrières et elles sont en France.
Les Hobson, c'est vrai que l'impact environnemental est évident. Quand on va chercher du sable, ben, ça a un effet parce que le sable, on peut le trouver notamment dans les rivières et il y a de la vie dans les rivières. Pas trop de sable, parce qu'on pourrait aller sur les plages parce qu'il est plein de sel, ce sable-là. C'est peut-être pas le meilleur des sables.
Ouais, ouais. Alors, le sable, on l'a beaucoup extrait dans le limineur des rivières. Et en fait, très tôt d'ailleurs, il y avait des scientifiques qui alertaient sur l'impact de l'extraction de sable dans les rivières dès les années 70. Et il a fallu qu'il y ait des ponts qui, enfin, en tout cas, un pont assez connu à Tours qui s'effondre, mais aussi, voilà, des fondations de ponts qui soient mis à nu justement par la baisse du niveau de l'eau dans les rivières pour qu'il commence à y avoir vraiment des alertes significatives. Mais il faut quand même attendre 1994 pour qu'il y ait une interdiction d'extraire dans le limineur des rivières. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait l'industrie s'est simplement déplacée dans le lit majeur, ce qu'on appelle le lit majeur des rivières. Donc ça, c'est pour l'extraction dite alluvionnaire. Et après, effectivement, on extrait en mer. En France, en tout cas, ça reste 2% de l'industrie extractiviste. Donc c'est au final très peu, mais c'est très peu parce qu'en fait, ça coûte encore trop cher. Et qu'il faut laver ce sable à l'eau douce après l'avoir extrait. Et en tout cas, il y a un impact qui a été... Ça, enfin, en tout cas, l'extraction dans les rivières a causé des ravages qui sont vraiment irrémédiable, tant sur la faune, sur les espèces de poissons, les oiseaux migrateurs, enfin en tout cas il y a vraiment toute la chaîne de la biodiversité qui a été impactée, et ensuite sur la flore, sur comment tous les bras secondaires des rivières ont été asséchés, impactés. Donc il y a vraiment, il y a des conséquences écologiques assez désastreuses sur cette extraction massive dans les rivières et en mer. C'est sûr que ça commence aussi, il commence à y avoir des études sur l'impact. En tout cas, l'impact, il est prouvé dans d'autres régions du monde, très clairement.
Et il était 9h ce matin-là, à Tours.
9h ce matin à Tours, sur le pont Wilson, un des trois ouvrages qui dans la ville enjambe la Loire, peu de circulation encore. Soudain, les pêcheurs et les passants aux alentours entendent un grondement sourd. Une des arches du pont est tout simplement en train de s'affaisser.
J'ai vu les pierres dégringoler dans l'eau et j'ai vu une voiture qui désespérément faisait crisser ses pneus. Et alors là, c'était vraiment pathétique parce qu'on voyait la voiture qui tentait de grimper. Elle était littéralement sur un mur, en face d'un mur. Et puis tout d'un coup, on a senti les pneus qui éclataient et puis... Elle a réussi à monter et c'était terminé, le type est parti à toute allure.
Il semble donc bien que l'accident n'ait pas fait de victimes. Quant aux raisons de l'effondrement, il s'agirait de l'enfoncement d'une des 14 piles du pont dans le lit de la Loire, sans doute sous l'effet des dernières crues. La pile qui s'est enfoncée avait déjà été bombardée durant la dernière guerre et reconstruite par la suite. Vers 16h cet après-midi, une autre pile s'est effondrée, entraînant dans sa chute une cinquantaine de mètres de chaussée supplémentaire. Actuellement, trois des arches du pont Wilson sont détruites et des pierres continuent à se détacher du tablier.
L'effondrement du pont Wilson à Tours, c'était en 1978. C'était un bon exemple hein, de la fragilité après de la Loire. Mais quel fleuve magnifique, abîmé. Et puis ici, il y a comme une mise en abîme parce que le pont Wilson avait été en partie restauré après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale en béton. Parce que ce béton qui nous intéresse devient, et on l'a bien entendu, un matériau omniprésent. Mais il faut quand même rappeler ses qualités, parce que c'est exceptionnel. C'est pas juste parce que c'est pas cher. Ça permet de faire des réalisations qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Des élévations, des grandes ouvertures. C'est ça aussi l'avantage du béton. C'est ce qui attire. Et puis le coût peut-être aussi. Pourquoi expliquer un tel succès ?
Très clairement, ça a été un peu une révolution. Moi, si je pense là plutôt au coût, il faut quand même dire que il y a grâce à la standardisation et voilà au moment de la révolution industrielle et puis juste après, il y a quand même quelque chose qui revient parce que c'était là depuis longtemps, mais ces blocs de béton qui sont considérés comme de la pierre quoi et qu'on utilise comme de la pierre. Donc on va pouvoir construire quand on parlait là, je parle du parpaing. Mais en fait, ce que ça permet, c'est que il y a une rapidité de construction. Et je pense à notamment des grandes foires au moment de salons dans les années 50-60, où je pense à une foire en particulier, la foire de Metz en 1953, où on montrait qu'on pouvait construire une maison en une semaine avec des parpaings. Et donc il y a aussi ces temps architecturalement ce que ça permet de produire, mais c'est aussi la notion de productivité et le progrès, il passe aussi par la rapidité, quoi. Donc en fait, on va montrer qu'on peut d'un coup, que l'acte de bâtir peut d'un coup se faire très rapidement à un coût moindre. Et moi, c'est là où je dirais que c'est à ce moment-là que le matériau, il passe d'un matériau à un produit, quoi. Où on va produire de la valeur grâce à cette matière qui permet de construire rapidement. Et du coup, même l'objet architectural d'un coup va devenir un produit, parce que là, ces maisons sont exposées comme des voitures, quoi, ou des machines. Donc il y a quand même aussi ce basculement qui opère. Et puis après, architecturalement, c'est aussi ça vient avec tout le courant de l'architecture moderne qui passe aussi par cette idée du progrès.
Oui, parce qu'on l'entend bien, hein, le béton, c'est omniprésent dans les discours politiques, et puis même c'est porté dans l'idée que voilà une solution formidable pour permettre des constructions. Nello Magalhães, vous avez un chapitre sur les dévastations alluvionnaires qui commence justement avec l'effondrement du pont Wilson à Tours en 1978, parce que cela, on ne le voit pas au moment où se développe l'industrie du béton. Ce que l'on met en avant, évidemment, c'est la rapidité de construction, la souplesse et puis le coût, hein, parce que ça permet d'aller vite. Et bien, la réalisation est splendide. On voit pourtant très tôt évoquer les dangers pour l'environnement de cette industrie du béton.
Oui, alors je vais essayer de faire une réponse en deux parties. La première sur les avantages, parce que ça, je me souviens de chantiers où ils sont immédiatement valorisés, ces avantages, donc qui ont été cités par Léa, notamment standardisation, la rapidité, l'organisation en fait d'un chantier qui ne dépend plus des aléas de l'extraction d'une pierre, la meulière, le grès, qui avait ses défauts, ses difficultés au niveau de la taille, etc., etc. La standardisation est notée dès le début, notamment il y a un chantier, les premiers chantiers, donc c'est la construction de vraiment de gros blocs pour les jeter, notamment des ports d'Alger, donc c'est une histoire coloniale au début, le port de Marseille, et puis les jeter du canal de Suez. Et là, à chaque fois, c'est Lafarge qui fournit le ciment de ces chantiers-là. C'est les premiers développements de l'entreprise Lafarge. Et on produit ces gros blocs sur les quais même du port et on attend qu'ils sèchent et puis on va les jeter dans l'eau. Et donc c'est déjà extrêmement valorisé. Ensuite par quelqu'un comme Taylor, donc celui qui a donné le nom de Taylorisme, qui est fasciné par ces nouvelles technologies du béton. Donc en effet cet aspect-là est très apprécié des ingénieurs et aussi des administrations. Ensuite sur la l'aspect donc sur les dégâts, en effet, à quel point sont-ils connus ou pas. Alors c'est paradoxal parce que il y a des dizaines de milliers de carrières, donc il y en a partout, mais elles sont elles sont bien réparties, et au final ça fait des petites contestations de basse intensité, des voisins qui se plaignent, un élu, des pêcheurs, mais alors il y en a quelques-uns qui frappent, notamment voilà cette histoire de ce pont là qui m'avait vraiment amusé, parce que là ça va vraiment faire un affect national, ça passe à la télévision, etc. Il y a d'autres impacts qui affectent plus, hein, notamment les nappes phréatiques, le fait que ça va le niveau de l'eau baisse des rivières, et donc ça va affecter les nappes phréatiques et donc l'eau courante. Alors ça vraiment ça embête beaucoup de monde, y compris par exemple un autre élément, c'est dans l'estuaire de la Loire, il y a le bouchon vaseux qui remonte tellement le niveau de l'eau de la Loire a baissé. Alors là je voudrais dire quelque chose, c'est que moi à partir de tout ça j'ai proposé de qualifier ça d'extractivisme ordinaire, et ça fait immédiatement écho au débat qu'on a aujourd'hui sur l'extractivisme dans le bas Mékong, où le niveau de l'eau du Mékong baisse tant il y a des extractions de sable, et la mer tend à pénétrer dans les terres. Or, il y a énormément de riziculture, et ça pose tout un tas de questions pour la riziculture locale. Et avec des niveaux d'extraction extrêmement importants, on dit qu'il y a 7 fois plus d'extraction aujourd'hui que le sédiment naturel du Mékong. Et dans la Loire, là, dans ces années 70, donc juste au moment où le pont va s'effondrer, ce taux-là, donc qui est de 7 aujourd'hui dans le bas Mékong, est de 10 à 12. Donc en fait, il est supérieur à cette époque. Alors, et c'est assez commun dans toutes les rivières de France, on a des niveaux d'extraction extrêmement élevés. Mais alors voilà, c'est local, c'est des petites protestations. Il n'y a pas une manif Bastination avec 1 million de personnes pour protester contre l'extraction. Et donc finalement, ça va devenir rapidement insoutenable, hein, comme on vient de l'expliquer, et ça va conduire à tout un tas de législations environnementales à partir des années 70.
Oui, parce que ça devient insoutenable pour les gens quand ça se voit. Et ça, c'est vraiment le cas sur le littoral.
Un jour va venir, si on laisse continuer comme ça, on verra que des cubes. Que des cubes, là, des morceaux de savon, de tout ça. C'est affreux, comme tout. Au lieu de regarder toutes ces belles villas qui sont là. C'est magnifique. Il y a des fleurs, il y a tout ça. Et
les HLM,
et tout ça, là. Ben, c'est affreux, quoi.
Vous venez ici depuis longtemps?
Non, c'est la première année. J'étais avant sur la Côte d'Azur, mais j'en suis parti justement parce qu'il y avait un mur de béton qui empêchait de voir la mer, et puis j'arrive ici, mon Dieu, je m'aperçois qu'il y a pas mal de constructions en cours.
Ah bah mon Dieu, c'est fort embêtant ça. Nous étions en 1971 du côté de Quiberon avec ce qui se voit, parce que c'est ça aussi l'histoire de la prise de conscience, c'est ce qui se voit. Historienne, historien, au moment d'étudier l'histoire de l'industrie du béton, l'accumulation de béton, ça c'est une chose, les atteintes à l'environnement, toutes ces dévastations alluvionnaire et l'ensemble des extractions qu'il peut y avoir, ça se voit un petit peu après. C'est vraiment la bétonisation par les routes, par les parkings, par les constructions sur le littoral qui commence à faire que l'on parle de ces phénomènes-là dans les années 1970. Est-ce qu'on peut le saisir ainsi ?
Oui, alors moi je dirais que il y a quand même ce qui se voit, ça reste. Alors on commence à parler de d'extractivisme aujourd'hui et l'impact que ça. Mais pour rebondir sur le petit extrait, en 2007, parce qu'en fait les mobilisations autour de l'extraction de granulats marins, elles sont quand même assez conséquentes en France. Et je pense à un collectif qui s'appelle le Peuple des Dunes, qui en 2007, il y avait 12 000 personnes qui se sont mobilisées contre l'extraction de sable en mer par l'entreprise Lafarge. Et en fait, mine de rien, c'est marrant comment le sable, justement, des plages, vraiment est considéré comme un patrimoine aussi. Et en tout cas, moi, dans le travail que j'ai pu mener, j'ai vraiment récolté un grand nombre de témoignages de personnes qui vont se mobiliser contre ou l'ouverture ou l'extension de carrière et qui vraiment voient l'impact, alors pas forcément par justement la bétonisation, mais par l'extraction. Et ce qui est sûr, c'est que ce sont des mobilisations qui sont aussi extrêmement locales et qui vont voir l'impact sous leurs yeux et dans leur territoire. Et c'est ça qui est assez frappant, c'est qu'en fait, on a des habitants et des habitantes qui vont d'eux-mêmes, justement, sans être historiens ou écologues, qui vont tracer le fil un peu de cette filière-là et de l'impact à plusieurs maillons de cette chaîne, quoi.
Oui, parce que nous avons ici une histoire qui s'écrit entre le local que vous venez d'évoquer et ces grandes infrastructures que nous citons aussi. C'est ce jeu, ce va-et-vient Nello Magalhães qui fait que pour approcher l'histoire de l'accumulation du béton, je reprends le titre de votre ouvrage, accumuler du béton, tracer des routes, c'est ça aussi, c'est ce va-et-vient entre ces industries multinationales et puis la conscience au plus près des dommages faits à l'environnement.
Oui, c'est étonnant cette ambivalence entre l'extraordinaire, les gigatonnes, etc., etc., et puis le caractère très local, très banal, etc. Et sur les fonds marins, je voudrais dire que j'ai écrit un article là-dessus, j'en parle très peu dans le livre, mais c'est pareil, on a l'idée que l'extraction des fonds marins en Indonésie, dans plein de pays du monde, est absolument catastrophique et inquiétante, etc., etc. Or, depuis les années 60 en France, c'est dès 1968 en fait, que les premiers projets d'extraction de sable marin, des projets massifs naissent avec une énorme contestation. Donc à chaque fois, il y a des contestations ici des pêcheurs qui sont vraiment vent debout contre ces projets-là. Et l'idée à l'époque est d'alimenter Paris en granulats marins, en sable et gravier marin, parce que dans les années 60, il y a un énième Grand Paris, on pourrait dire, avec les villes nouvelles, des RER, et puis il y a la Défense, il y a énormément de constructions dans Paris. Et les ponts et chaussées sont très inquiets pour les gisements de sable dans la région parisienne qui donc en rivière commence à s'appauvrir et donc ont comme projet d'amener du sable marin depuis les côtes, depuis la Manche. Alors ça n'a jamais vraiment pu se réaliser, mais en effet il y a une extraction de sable marin depuis les années 70 en France qui continue aujourd'hui. Et c'est banal, hein, dans d'autres pays, aux Pays-Bas c'est extrêmement présent, en Angleterre ça se fait depuis très longtemps aussi. Et donc le à chaque fois il y a ce caractère. Alors là en plus c'est une extraction qui est relativement invisible par beaucoup. Peu savent qu'en France, on extrait depuis les années 70 du sable marin. Donc en effet, il y a ce côté visible, invisible, cette tension-là qui ressort à chaque fois, en fait, à chaque étape de l'histoire du béton.
Oui, ce que je voulais juste rebondir sur votre question, justement, sur ce lien qui est fait à différentes échelles du territoire. Et c'est ça qui à mon sens, est très intéressant aujourd'hui. C'est comment des collectifs ou des associations d'habitants vont presque d'eux-mêmes faire des liens, et je pense alors très fortement à des luttes dans le sud-ouest, où il y a un projet d'autoroute qui est fortement contesté sur le territoire, à presque 90% de la population qui est contre ce projet d'autoroute. Donc il y a une mobilisation qui se lance contre le projet d'autoroute et plusieurs dizaines de kilomètres plus loin, en Ariège, il y a des associations qui militent contre l'extraction justement de sable en Ariège. Donc on a parlé des impacts et qui eux voient très très concrètement, donc dans ce territoire qui est très préservé, avec une nature et puis beaucoup d'espèces, encore des saumons sauvages, etc., et qui voit vraiment l'impact localement, avec des carrières qui vont passer de 200 à quasiment 1000 hectares, et un lien est fait entre l'extraction donc dans les gravières en Ariège et le futur projet d'autoroute. Mais pas simplement ça, aussi que en fait ces gravières-là vont ensuite servir de site d'enfouissement de déchets inertes, et donc les déchets de la métropole toulousaine, donc quand je dis déchets, c'est vraiment des gravats de démolition, vont ensuite être enfouis dans ces gravières. Et donc il y a quelque chose de vraiment très très intéressant sur toute cette narration qui peut se raconter autour de cette filière et du flux de cette matière qui va s'opérer, et de comment des habitants arrivent à faire un lien entre eux et visibiliser donc des différents, que ce soit des projets ou des sites, pour pouvoir parler de toute cette matière-là, quoi.
Oui, parce que c'est une histoire très humaine, c'est important de le dire aussi, une histoire qui fait du lien à propos, oui, de ce lien étrange qui forme le béton. Vous nous avez dit, Nello Magalhães, que c'était à quel moment l'idée de faire venir ce sable marin sur Paris pour reconstruire Paris?
Donc 68, c'est vraiment 68. Les premières...
C'est cette année-là que Christine Sèvres chantait Béton armé.
Béton armé, soleil en berne, homme de nouvelle caverne, voilà ce que nous devenons. Et pardonnez-moi si j'en tremble, j'avais rêvé de grands ensembles, ensemble est un si joli nom. Du ciment à l'horizontale, du ciment à la verticale, et puis le vacarme têtu. Ces grands ensembles sont si rudes que je rêve de solitude comme d'un paradis perdu. Dieu qui voulait la vie si belle, allez un peu voir à Sarcelles. Sarcelles était un nom d'oiseau. Aujourd'hui, l'oiseau est en cage et moi, je trouve ça dommage si vous, vous le voyez de haut. Béton armé, soleil en berne, homme de nouvelle caverne, voilà ce que nous devenons. Si vous n'y mettez pas bon ordre, bientôt la vie si bonne à mordre ne méritera plus son nom. Ah, faites-moi changer d'adresse et faites que le vent caresse encore une fois mes mains nues. Le vent, le vrai, pas cette crasse qui nous fait le cœur dégueulasse en ramenant les avenues. J'ai besoin d'air, Dieu me pardonne, de celui que le ciel nous donne en passant par l'odeur des prés. Et si un jour la mort m'empoigne, que ce soit en rase campagne, avec de l'air, mon Dieu, du vrai. Avant de payer l'échéance, je voudrais qu'on donne une chance à mes chansons sans hystérie. Et s'il n'y a plus rien à faire, mettez-moi sous un peu de terre, si vous en trouvez à Paris.
En 1968, Christine Sèvres qui chante Béton armé. Christine Sèvres, c'est une voix de la chanson de ces années-là, proche, si proche de Jean Ferrat, et on y croise Brassens, Reggiani, Brigitte Fontaine. Dans le cours de l'histoire aujourd'hui, une émission réalisée par Thomas Beau à la technique d'Alia A. Nous parlons de la nature qui se trouve coulée sous le béton. Une histoire bien armée, une histoire environnementale. Il y a l'eau peut-être que nous pouvons évoquer. Nello Magalhães, on l'a bien dit, hein, nous avons nos matériaux différents. Pour faire le ciment, il a fallu déjà utiliser beaucoup de chaleur et ça, on sait bien les conséquences environnementales. Nous avons notre sable puisé au fond des rivières ou ailleurs, conséquence aussi le gravier et toute cette eau. C'est-à-dire que l'ensemble de tout mis bout à bout en soi ne pose pas de problème quand c'est utilisé comme au 19e siècle de manière marginale. Mmh. C'est l'ampleur en fait qui pose toute la question.
Ouais, on revient à la question d'ailleurs de la massification tout à l'heure et de l'utilisation du mot bétonisation. Oui, alors donc cette vraiment grande accélération de la bétonisation, si on veut, ça va être de 45 à 74. 74, c'est le pic en France, vraiment du béton de ciment classique. Ça va décupler, voilà. Bon, c'est assez connu hein, des historiens, là, cette période de grande accélération. Et ça va rester, ceci dit, à des niveaux assez élevés. C'est-à-dire qu'en fait, tant l'extraction, alors en plus l'extraction, son pic est plus tard parce qu'elle sert beaucoup aux grandes infrastructures et pas que au béton et aux bâtiments. Mais le niveau de bétonisation, disons, va rester à un niveau assez élevé. C'est-à-dire que c'est pas qu'une histoire de reconstruction, c'est une histoire ensuite de construction d'espaces logistiques, d'aéroports, de grandes infrastructures de transport en tout genre, et de bureaux aussi plus tard, etc., etc. Et cette accumulation est assez fascinante. Elle ne s'est pratiquement jamais arrêtée, avec aujourd'hui un nouveau Grand Paris depuis quelques années. Donc cette bétonisation, elle arrive en France dans ces années-là. Et il faut le dire quand même, elle est transposée un peu à tous les pays, avec beaucoup de profits d'ailleurs pour les multinationales françaises, hein, qui sont immenses et parmi les plus importantes du monde, qui vont ensuite se développer, notamment Lafarge, mais aussi Bouygues, Vinci et autres, vont se développer à l'étranger. Et aujourd'hui, ça va être, sur les 20 dernières années, c'est surtout la Chine. Hein, alors il y a les chiffres bien connus, la Chine a consommé en 3 ans autant que tous les États-Unis en un siècle, et des choses comme ça, et pas n'importe lequel, hein, le 20e, hein, pas le 15e. Hein. Et donc, en effet, ça fait des consommations assez massives, et évidemment... une fois qu'on atteint des niveaux de tels niveaux de consommation de béton, les niveaux d'extraction sont gigantesques. Donc aujourd'hui, en gros, la moitié des matières extraites sur Terre sont du sable et du gravier. On a une tonne sur deux, si on prend la totalité de l'extraction mondiale, tout compris métaux, bois, tout ce qu'on veut, ce seront du sable et du gravier. Donc c'est le phénomène matériel majeur du siècle que nous vivons.
Léa Hobson, Désarmer le béton, que vous publiez à La Découverte. J'ai rappelé, vous êtes architecte, mais architecte, ça veut dire qu'au XXe siècle, être architecte, ça oblige à penser le béton. En tout cas, dans ce XXe siècle que nous évoquons après la Seconde Guerre mondiale et même déjà avant, il y a du béton partout. L'idée de construire une habitation comme le passé reste marginale, c'est-à-dire prendre de la pierre de taille et des choses comme ça. Le béton, ça arrive toujours dans la construction.
Ouais, et puis et alors c'est quand même en train de changer doucement en tout cas dans les écoles d'architecture. Je parle pas des écoles d'ingénieurs, mais ça commence à changer. Mais c'est sûr que voilà, quand on apprend ce métier-là, on se pose d'ailleurs très peu la question de comment faire tenir quelque chose, parce qu'en fait on sait qu'il va y avoir cette solution miracle qui permet littéralement de tout faire, quoi. Et puis il y a quand même aussi toute une posture de l'architecte comme la personne qui va ériger quelque chose, cette posture aussi d'artiste où il faut poser sa patte et du coup faire sortir littéralement quelque chose du sol, fort heureusement aujourd'hui ça commence à être mis en question, et notamment pour justement avoir un peu plus d'attention sur la question du bâtiment existant et de tout le patrimoine. Enfin, en tout cas, en France, on a la chance d'avoir un patrimoine immobilier vacant et qui existe. Et puis de constater que, en fait, la pierre, les bâtiments en pierre sont toujours debout. Et ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'aujourd'hui, le béton, on sait que c'est un matériau qui ne dure pas. Enfin, en fait, il y a quand même la réalité, c'est que tout ce qui a été construit dans les années 50, y a quand même une grosse vague depuis quelques années de démolition massive de tout ce patrimoine qui a été construit il y a plus de 50 ans. Donc voilà, en tant qu'architecte, c'est sûr qu'il y a réellement une posture à déconstruire de cette figure qui va d'un coup faire pousser des choses un peu de partout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment aujourd'hui elle est remise en question et comment l'architecte va être plutôt peut-être quelqu'un qui va prendre soin du bâtiment et du bâti qui existe, plutôt que de devoir utiliser ce matériau miracle pour faire pousser des champignons de partout, quoi.
Avec l'idée, et c'est vrai que ça a drainé l'ensemble de la pensée architecturale durant tout le 19e siècle et le 20e siècle, c'est qu'avec le béton, c'est la liberté.
On avait toujours la liberté. Étudiant les choses automatiquement, on rentrait dedans. Et rentrant dedans, ben on les exprimait avec des idées nouvelles ou tout simplement des idées toutes bêtes qui paraissaient nouvelles. Ça coule de soi, disons. Le Corbusier avait fait le plan libre et la façade libre, il ne faut pas l'oublier, ça. Par conséquent, on n'était pas du tout brimé par des murs porteurs d'enfants ou façades porteuses. On avait une façade libre et un plan libre. Le mouvement à l'intérieur de ce plan et l'harmonie des volumes et la beauté des volumes, c'était à nous de la créer, c'était libre. On avait des façades qu'on pouvait vitrer totalement ou obturer comme on le voulait, ou ouvrir totalement. Et puis à l'intérieur, vous pouviez mettre des divisions courbes, des divisions droites, de tout ce que vous vouliez, vous étiez libre. Et c'est ce qui a fait cette architecture.
Charlotte Perriand, architecte, qui a collaboré avec Le Corbusier, qui s'exprimait sur France Culture en 1985. Mais cette liberté-là n'a pas de prix. Quand vous parliez, Léa Hobson, du béton qui est une solution, dès qu'il y a un problème, on peut toujours trouver une solution en béton. Si on a besoin d'un linteau, on peut le faire en béton. On peut tout faire avec le béton. C'est cette souplesse-là qui explique le succès du béton et qui a sans doute caché l'ensemble des conséquences que pouvait avoir cette industrie.
Oui, et puis alors c'est ça qui, enfin je trouve que c'est marrant, enfin c'est marrant comme extrait, et puis de ce moment et puis venant aussi de Le Corbusier qui a quand même je tourne un peu la question que vous venez de me poser, mais qui a aussi eu des projets comme le plan voisin qui allait raser tout le centre de Paris avec justement un contrôle de l'espace et des corps et des mouvements, qui a parlé de machines à habiter. Donc il y a quand même, certes il peut y avoir on va dire une une certaine liberté et puis on va se dégager de structurellement de beaucoup de choses et donc spatialement on va retrouver enfin on va trouver des espaces qu'on n'avait pas forcément auparavant avec des grands porte-à-faux voilà on va dégager des éléments structurels mais c'est quand même ironique aussi de voir que c'est ce matériau-là qui a aussi permis des grands ensembles qui a fait les villes qu'on a aujourd'hui. Et voilà, il y a un certain contrôle de l'habiter aussi, de normes, et puis de comment nous on habite, que ça soit socialement ou spatialement, c'est un matériau qui a aussi conditionné beaucoup de choses, en tout cas dans le siècle dernier.
Avec la force des institutions derrière, hein, Nello Magalhaes, qui porte en fait tout ce que nous disons depuis tout à l'heure, hein, l'idée que voilà, c'est le béton qui va trouver toutes les solutions qui va permettre de construire des grands habitats, ces grands ensembles que vous évoquiez à l'instant. Et là, nous retrouvons, au-delà des institutions, même des politiques guidées dès l'État et après la Seconde Guerre mondiale, comme des évidences, hein, que ce soit par Monet, que ce soit en s'appuyant sur le plan Marshall, dans cette volonté de mettre du béton un peu partout.
Oui. Alors bon, l'État, c'est une constante. Hein. Il est vraiment là depuis le début, au travers des grandes écoles d'ingénieurs d'ailleurs. Et puis, comme je l'avais dit, les travaux militaires, portuaires, etc. au 19e siècle, les grandes infrastructures où il y a besoin de béton pour comme je l'avais dit, des usages assez simples. Et puis, il est là, évidemment, après 1945, dans une nouvelle forme, hein, qu'on connaît bien. Et donc, en effet, dans le plan Monet, le ciment, c'est une des six grandes composantes à relancer en priorité. Mais alors le problème, c'est que ça consomme beaucoup de charbon, alors ça les inquiète beaucoup, parce que le charbon manque. Et ils vont, dès cette époque, chercher à faire ce qu'on appelle aujourd'hui du ciment vert, c'est-à-dire utiliser des déchets industriels dans la fabrication du ciment. Et c'est la plus belle époque du ciment vert, ce sont la fin des années 40. Alors je dis vert avec beaucoup de guillemets et d'ironie, hein, parce qu'un déchet industriel, il a émis beaucoup de CO2 pour être produit, mais c'est aujourd'hui ce qu'on vend comme un ciment vert. Donc, il y a des grandes firmes aujourd'hui qui produisent ce type de ciment à partir d'un déchet, notamment de la sidérurgie. Et dans les années donc 40, pour faire ces grands plans de relance à partir du béton, on utilise énormément de ciment. D'ailleurs, dans le barrage de Bord, qui a été cité dans un des extraits, il y a ce ciment de laitier, on l'appelle, pour donner son nom, qui est utilisé massivement dans tout un tas de barrages, dans les aérodromes, dans les autoroutes énormément, donc des centaines de millions de tonnes ont été utilisées dans ces 30 années-là. Oui, alors évidemment, avec les grands plans d'aménagement du territoire, c'est une histoire assez connue, hein, le béton est vraiment omniprésent dans absolument tous les chantiers.
Et ces aménagements eux-mêmes ont des effets sur l'environnement.
L'un des chantiers les plus gigantesques du monde se trouve actuellement en France. Entre Donzère et Mondragon, 6000 ouvriers spécialisés travaillent en effet à détourner le cours du Rhône sur une distance de 28 km. Le résultat sera dans un an une production de 2 milliards de kilowatts. Et pour arriver à ce résultat sans précédent, il aura fallu un budget de 75 milliards et 25 années d'études. Il aura fallu raser 3000 hectares et fouiller 50 millions de mètres cubes de terrain. Ce prodigieux effort technique fourni par la France, dans le cadre des plans Monet et Marshall, suffit à démontrer la valeur et l'efficacité des réalisations de l'industrie hydroélectrique française.
Les actualités françaises en 1950 avec ces barrages, bah oui, effets environnementaux, c'est presque à peine besoin de les développer parce que nous savons que quand des hectares et des hectares sont d'un coup recouverts d'eau, bah ça change complètement la donne, mais ça crée aussi des choses. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, Léa Hobson, et c'est d'ailleurs le titre d'un chapitre de votre ouvrage « Désarmer le béton », ça c'est le titre de l'ouvrage, il y a du sable à la ruine. Le sable, on l'a bien compris, la ruine, c'est ce que vous nous expliquiez. C'est-à-dire que le béton, ça n'a pas cette solidité dans le temps que pourraient avoir d'autres matériaux. Mais en tout cas, le béton, ce n'est pas la solution sur un temps très long.
Non, en fait ce qui se passe avec le béton armé qui donc ne se passait pas voilà, on a parlé du Panthéon de Rome, enfin en fait a permis qu'il y ait des ouvrages qui durent des millénaires. Et ce qu'on voit aujourd'hui avec le béton armé, c'est que il y a une réaction qui se passe avec le CO2, les aciers se corrodent avec le temps. Il y a aussi un certain nombre d'ouvrages dans les années 50, entre 50 et 70, qui ont été mal construits, donc en fait on, pour avoir des constructions moins chères, on mettait moins de ciment et donc on rajoutait plus de sable. Et donc que ça soit en France ou dans plein d'autres pays en Europe, des quartiers entiers ou des lots de bâtiments et d'immeubles qui sont très fragilisés. Et en fait, ce qui s'est quand même passé et qu'il faut vraiment noter, c'est que on a arrêté d'entretenir le bâti. Alors qu'avant, le bâti ancien, on savait qu'il fallait refaire tous les 10 ans le chauffage ou les enduits, que voilà, une charpente, ça s'entretenait. Enfin, en fait, il y avait vraiment un soin qui était porté au bâti. Et ça s'est complètement perdu avec cette idée du progrès et de ce matériau qui permettrait de durer des siècles et de résoudre tout. On n'a pas entretenu ce patrimoine-là. Et donc, on se retrouve avec une quantité de bâtiments aujourd'hui qui sont pas entretenus. Et donc, la seule excuse et la seule solution qu'on trouve à ces dégradations-là, c'est du coup de les démolir. Et on se rend pas compte qu'en fait, il y a quand même vraiment tout un pan de l'histoire qui est aussi en train de disparaître. Et ça vaut aussi pour les grands ensembles, c'est qu'en fait il y a plein de choses qu'on peut discuter sur cette architecture là qui a été problématique mais qui aujourd'hui fait partie de l'histoire et qu'on démolit pour reconstruire ensuite en béton et c'est ça qu'on voit, c'est que c'est pas forcément en fait la machine s'entretient aussi et qu'il y a une quantité astronomique de déchets et de gravats de béton qui sont dits déchets inertes, qui ensuite il faut aller enfouir parce qu'on ne sait pas quoi en faire, que c'est très très peu recyclé, qu'on ne peut pas recycler. Enfin voilà, le recyclage du béton, c'est quand même un gros sujet. Mais donc ça commence tout juste à être un peu un sujet aujourd'hui, mais ça reste quelque chose qu'on ne voit pas parce qu'en fait on reconstruit très très vite derrière et on ne se rend pas compte comment le paysage autour de nous, dans des milieux plutôt urbains, change extrêmement vite. Et s'étale, quoi.
Avec vraiment toutes ces questions qui traversent l'histoire environnementale et les problématiques d'aujourd'hui. C'est comment les problèmes sont dissimulés, on ne les voit pas. Et comme ça, il n'y a plus de problème parce qu'on ne les voit pas. Nello Magalhaes, accumuler du béton, tracer des routes, parce que pour essayer de saisir cette histoire et les routes, c'est vrai que en quantité de béton, on n'imagine même pas ce que ça représente, il est nécessaire, et c'est votre démarche, de regarder l'ensemble de ces acteurs, de comprendre que c'est politique, que c'est économique, que c'est social aussi, cette histoire-là. Donc, quand on apprend la quantité de béton pour faire des routes, on est effaré.
Oui, alors... En effet, ce qui est intéressant avec le béton, c'est que ces technologies-là, donc c'est de mélanger des agrégats avec des liants, comme je l'ai dit en introduction, ont été appliquées partout, se sont diffusées partout. On produit le même béton partout sur Terre. Il est garanti scientifiquement. C'est ça vraiment. Il y a une captation là de nouveaux savoirs, de la chimie, des résistances des matériaux, qui en fait va un peu prendre le pouvoir dans l'univers de la construction par rapport aux maçons, aux carriers, etc., etc. Et donc en effet, les technologies, disons, de construction des routes utilisent une succession de couches de béton, on pourrait dire. Et c'est la plus grosse consommation. En fait, on consomme plus, disons, de sable et de gravier, beaucoup plus dans les grandes infrastructures que dans le bâtiment en France. Vraiment, l'ordre de grandeur aujourd'hui est de 80% de sable et de gravier va aux grandes infrastructures et surtout aux routes. Mais alors, en effet, là derrière, je voudrais insister sur un dernier élément. Alors, il y aurait trop d'acteurs et d'institutions à mentionner, etc. Mais un aspect dont on n'a pas encore parlé, enfin à peine évoqué, c'est la question des usages, en fait. C'est la question centrale, c'est pourquoi on doit construire autant de béton, à quelles pratiques sociales, à quels usages sociaux cela doit servir. Et pour les routes, l'énigme, je l'ai résolue au fur et à mesure de mon travail. En fait, ça sert à faire circuler des camions, quand même. Donc, on fait des sous-couches et des sous-couches de routes pour faire circuler de la marchandise et non pas des humains. Et donc ça, c'est quand même des questions qui sont intéressantes à développer. Il y a des choix qui sont faits. Quel type d'infrastructure souhaitons-nous? Enfin, ça n'a pas été débattu démocratiquement comme ça. Mais et donc le choix a été fait de la libre circulation des marchandises sur tout le territoire européen et ensuite mondial, comme on le sait. Mais donc ça a eu des implications assez importantes. Et donc en effet, pour les j'essaye de tracer ce que mon ancien directeur de thèse Jean-Baptiste Fraisseau appelle les symbioses matérielles entre les différents flux, et donc plus de ciment, ça veut dire plus de terre de terrassement. Il y a aussi une énorme symbiose avec l'industrie sidérurgique, hein, le béton armé demande de l'acier, mais aussi il y a énormément de déchets de la sidérurgie qui servent dans le béton. Pour le barrage de Donzard dont on a entendu parler dans l'extrait, ça va servir à des remembrements, etc., etc. Donc en fait il y a énormément de donc pour l'agriculture productiviste, hein, je termine la phrase parce que c'est pas clair. Et donc j'essaye en effet de rappeler que le béton ne se cantonne pas simplement à la bétonnière et au bâtiment dans laquelle qu'elle va nourrir.
Voilà, parce que c'est vraiment cela, hein, c'est un regard sur l'ensemble de cette industrie, de tous les acteurs qui entrent en jeu, sur les conséquences aussi, et parmi ces conséquences, il y en a une étonnante, la bétonite.
La première victime de la bétonite en France restera longtemps dans les mémoires. Elle avait d'ailleurs connu 30 ans plus tôt une certaine notoriété. Son père, architecte premier Grand Prix de Rome, l'avait construite en 1962, peu après les accords d'Évian, dans la banlieue sud de la capitale pour loger les rapatriés. Ce grand ensemble fut réalisé en moins d'un an. 300 jours exactement s'étaient écoulés entre la pose de la première pierre par un ministre et la remise de la première clé par un autre. Cette opération, comme on disait symboliquement à l'époque des grands ensembles, avait été placée sous les meilleurs auspices. Avec un peu de complaisance, le maître ne ratait jamais l'occasion de commenter son œuvre, en laquelle il voyait l'aboutissement de son grand art. Le parti architectural était simple. Une barre longue de 400 mètres, haute de 20, était plantée dans le gazon. Au nord, de chaque côté, deux tours rondes élançaient vers le ciel leurs 25 étages. Habillées de petits carreaux bleus, elles miroitaient au soleil. On a simplement constaté que le ciment s'était transformé progressivement en une mystérieuse poudre rouge.
Raphaël Laloum, dans le cours de l'histoire, qui nous lisait un extrait du roman de Charles de Fontaine, Bétonite, Nello Magalhaes, vous l'avez sous les yeux, vous l'avez emmené, je ne le savais pas.
Oui, mais alors, parce que c'est un roman très, très étonnant que j'ai découvert dans une boîte à livres en plein Covid et qui parle en effet d'une épidémie qui va toucher le ciment dans le monde entier. Et de ciment en ciment, comme ça, par les vents et par l'eau, ce virus du ciment se transmet et le monde entier disparaît, se détruit au fur et à mesure. Et alors, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, alors bon, déjà c'est fascinant parce qu'on lit ça en plein confinement et en pleine pandémie, mais en plus c'est que dans le roman, la destruction du ciment vient détruire en fait des structures sociales assez fondamentales de nos sociétés. L'État est complètement transformé, la monnaie ne vaut plus, le rapport salarial disparaît, etc., etc. Et donc, et ensuite, ils vont trouver un vaccin. Enfin, c'était vraiment très proche de l'expérience que l'on vivait en 2020-2021. Et la reconstruction va aussi faire renaître de nouveaux rapports sociaux, etc. Et ça, je pense, c'est très important à comprendre quand on étudie les flux de matière, etc. C'est qu'on parle vraiment de rapports sociaux qui sont inscrits là-dedans. Et l'histoire environnementale, je pense, c'est son grand atout, c'est de penser l'inscription matérielle des rapports sociaux. Parler simplement de calcaire, d'argile, etc., ça fait un bon cours d'ingénieur, mais vraiment, si on veut passer aux sciences sociales, il faut à tout prix prendre en compte ces rapports sociaux. Et en fait, le roman l'évoquait comme ça rapidement, et je démarre mon livre avec un prologue qui évoque cette bétonite et cette destruction du monde du béton.
Oui, parce que c'est une histoire humaine, une histoire sociale à Léa Hobson. Désarmer le béton, réhabiter la terre, c'est pour des gens qu'on fait tout ça, c'est pour vivre.
Ouais, c'est des gens et je dirais et des vers de terre. Je parle de comment les vers de terre ont disparu dans chaque mètre carré du sol et voilà quand on voit l'impact que ça a sur les sols. Je parle beaucoup de l'artificialisation qui représente plus de 50% de la perte de biodiversité. Voilà, on sait que aujourd'hui la bétonisation massive a un impact sur les sols, a un impact sur nos vies, sur nos voilà, que ça soit la démolition dont on on a parlé aussi, les quartiers et en fait ce qu'on fait de nos territoires. Et puisque tu l'évoquais, la question démocratique dans tout ça, de à quoi ça sert.
Ah bah oui, c'est pas mal ça aussi d'en parler. Merci vraiment à tous les deux. Donc bétonisation, bétonnage, on voit l'Académie préfère bétonnage. En tout cas, auditeurs, auditrices sont formidables. Et là, Christophe Tailleur de Pierre, sculpteur et peintre, nous écrit en disant « Attention, ne confondez pas aglo, contraction d'aggloméré, et parpaing. Le parpaing est une pierre traversante qui relie deux parements d'un mur. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'on l'utilise un peu à tout va, alors que c'est faux. » Et il rajoute « J'apprends beaucoup de choses, énormément même. » Merci, donc ça c'est le plus beau compliment qu'on peut nous faire. Et moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci à vous deux. Accumuler du béton, tracer des routes, Nello Magalhaes, et désarmer le béton. Prochain épisode dans le cours de l'histoire, cette fois à la tronçonneuse ou par le feu, la déforestation de l'Amazonie.
Tout ce que je vis me ramène aujourd'hui de retour à cette terre. Parce que cette terre aujourd'hui, ce n'est plus la terre sur laquelle je suis né. Aujourd'hui, c'est une terre complètement asséchée. Les fleuves sont morts, la forêt a complètement disparu de toute ma région. En tuant la forêt, on tue l'esprit de la forêt.
Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Coppet, Luce Mourant, Solène Roy et Mayouen Guizhou. Émission écoutée à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.